Cher Monsieur Van Oemerslaeg, vos propos sur le droit des obligations, ses perspectives et son avenir sont en réalité animés par le souffle qui traverse l'ensemble de vos enseignements, qui traverse votre traité et aussi par cette méthode que vous venez de décrire. Pour vous, le droit n'est pas un art en soi, ce n'est pas une belle chose sur laquelle on peut réfléchir dans l'abstrait. C'est un outil au service de la régulation des rapports sociaux. L'interprète, le juge, ne peut négliger les besoins de la pratique. Il doit faire preuve de pragmatisme pour rechercher les solutions les plus adéquates, les solutions les plus équilibrées. À cet égard, il sera rapidement confronté à cette constatation que les raisonnements techniques ont leurs limites et qu'ils conduisent le plus souvent à plusieurs possibilités qui sont raisonnables. Et à partir de ce moment-là, il y a des choix à faire, choix en fonction d'éléments qui ne sont plus purement techniques, choix en fonction de considérations, parfois d'équité, peser des intérêts en présence, prévalence d'un intérêt sur un autre, adéquation par rapport aux nécessités de la pratique, ou encore considération de politique au sens le plus élevé du terme. Ceci explique que nos jurisprudences françaises et belges s'écartent sur un certain nombre de points alors que l'on parte du même texte. Dans ce contexte, on ne saurait s'étonner que plus de 200 ans après leur adoption, les articles 1100 à 1186, mettons 186 bis, mais c'est une petite excroissance, aient conservé toute leur actualité. Vous avez souligné la qualité de ces règles synthétiques, profondément marquées de pragmatisme, comportant peu de définition, ne comprenant aucun principe philosophique ni aucun principe général qui aurait pu les figer, oserais-je ajouter qu'il s'agit de textes qui, à la différence d'autres parties du Code civil à l'origine, ne sont pas véritablement porteurs d'un message politique. Il s'agit de règles qui ont été reprises de la pratique ancienne, qui avait été systématisée au XVIIe et au XVIIIe siècle dans un contexte économique qui finalement n'est pas si éloigné du nôtre. On était dans un système d'hyper-régulation. Et puis, ces textes ont survécu, ont parfaitement passé la barre du libéralisme du XIXe siècle, et puis ont résisté en réalité au nouvel envahissement de l'ordre public, des règles impératives au cours du XXe siècle. Ce que d'aucuns ont qualifié de recul du contrat apparaît en réalité plutôt comme l'expression du recul de la liberté contractuelle et de l'avancée de l'ordre public. Et d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, le contrat, en quelque sorte, se porte comme un charme. Il a même envahi le droit public, le droit administratif. Tout le monde parle de contractualisation. Et donc, le contrat, en tant que tel, est un instrument qui est tout à fait actuel. Mais les textes à eux seuls, bien entendu, sont à l'évidence insuffisants. Et d'ailleurs, les rédacteurs du Code civil l'avaient pressenti, ils l'avaient déclaré dans les travaux préparatoires. La jurisprudence et l'œuvre de la doctrine ont joué à cet égard un rôle essentiel dans l'évolution du droit des obligations. Elles ne se sont pas limitées à adapter l'interprétation de textes, elles y ont ajouté des principes qu'elles ont découverts dans des textes, elles ont créé des concept nouveau, parfois en essayant un peu artificiellement les rattacher à des morceaux de texte. Vous avez parlé du principe de bonne foi, de l'abus de droit, de la théorie de l'apparence. Mais pour en venir à des choses beaucoup plus, moins à la pointe du progrès aujourd'hui, ou moins à la mode, il est incontestable que le droit de la responsabilité civile est une création monumentale de la jurisprudence et de la doctrine, puisque vous avez là tout un pan de notre droit qui s'appuie sur 6 articles du Code civil. Le droit des obligations a donc fait preuve de sa faculté d'adaptation, et c'est comme ça qu'il demeure et qu'il a vocation à demeurer le socle du droit privé patrimonial. Il est bien entendu, et c'est normal, confronté à des phénomènes nouveaux, mais il a toujours été confronté à des phénomènes nouveaux. Aujourd'hui, le développement de l'informatique, des nouvelles technologies, mais à vrai dire, ces nouvelles technologies, l'informatique, le commerce électronique posent essentiellement des problèmes de réflexion sur l'écrit. Et pour le reste, sans doute, sur le domaine de la preuve, puisqu'il faut adapter les textes anciens qui, par définition, n'étaient pas conçus pour ce type de technique. L'envahissement du droit de la consommation s'accompagne d'un formalisme parfois effréné. Il impose sans doute d'intégrer, comme vous l'avez souligné, de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Mais pour le reste, il correspond en réalité simplement à cet envahissement que nous avons connu des règles impératives et des règles d'ordre public auxquelles le droit des obligations est en réalité parfaitement habitué. Le droit d'obligation doit évidemment faire preuve, dans une certaine mesure, à l'internationalisation. Mais vous avez montré que, à part quelques traités importants, comme la Convention de Vienne ou quelques textes de droit positif européen, l'internationalisation n'a pas encore marqué profondément le droit civil, si ce n'est par l'approche comparatiste qui est de plus en plus développée par la doctrine contemporaine et qui permet d'enrichir en réalité notre droit belge en essayant de s'inspirer des solutions étrangères. Et puis alors, il reste bien entendu ce grand projet de droit code civil européen en matière de contrat, de responsabilité, d'enrichissement sans cause. Mais c'est un projet qui, sans doute, intellectuellement et pour une partie du monde académique en tous les cas, est tout à fait passionnant, peut-être une source d'ailleurs de financement de la recherche, mais sauf à en faire un projet de politique d'intégration européenne, est-il vraiment utile ? Les divergences que connaissent les différents droits nationaux en matière d'obligations contractuelles ou même de droit de la responsabilité extra-contractuelles sont-elles tellement importantes qu'elles constituent un véritable obstacle à l'intégration, à la liberté des échanges entre États membres? Il est permis d'en douter, spécialement si on compare ces légers inconvénients avec les difficultés beaucoup plus graves que l'on rencontre précisément, notamment avec le droit de la consommation, avec ses harmonisations minimales, mais qui impliquent nécessairement des seuils de protection qui sont extrêmement variés d'État à État et qui obligent les entreprises à s'adapter. Par conséquent, et c'est une question que j'aurais peut-être aimé vous poser si nous avions eu le temps et si nous n'avions pas une cohorte d'étudiants à notre porte, n'est-ce pas dépenser beaucoup d'énergie pour finalement un résultat concret qui serait relativement réduit? En toute hypothèse, merci beaucoup pour ce remarquable exposé, ce cours qui me rappelle mes jeunes années.
Vu l'heure et vu le fait que de manière tout à fait imprévue, il y a un cours qui va suivre, je vous propose non pas de garder en vous vos questions, mais de vous joindre au cocktail qui va maintenant avoir lieu au rez-de-chaussée. La faculté a pourvu à tout, et donc vous pouvez prendre un verre et dialoguer avec l'orateur et les différents membres de l'assistance. Je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup le professeur Van Hammerslag. On continue en bas. C'est juste au rez-de-chaussée en bas.